Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 4, chapitre 12, sommaire. Suite, expérience du cube placé successivement dans l'eau qu'il déplace d'une quantité égale à la sienne, et dans l'air où le même phénomène se passe, quoique non visible. Dans le vide, ce phénomène est impossible. Donc, le vide n'existe point séparément des corps. Paragraphe 1. À regarder la chose en elle-même, on pourrait trouver que ce qu'on nous donne pour le vide est bien parfaitement vide en effet. Paragraphe 2. En voici une nouvelle preuve. Si l'on plonge un cube dans l'eau, il y aura autant d'eau déplacée que le cube est grand, et ce même déplacement a lieu dans l'air, bien qu'alors le phénomène échappe à nos sens. Ainsi, pour tout corps quelconque qui doit se déplacer de cette façon, il y a nécessité constante, à moins qu'il ne se concentre et ne se comprime, qu'il se déplace dans le sens qui lui est naturel, et qu'il se dirige toujours en bas, si sa tendance naturelle est en bas comme celle de la terre, ou en haut comme le feu, ou dans les deux sens comme l'air. Et cela, quel que soit le corps qui se trouve dans le milieu traversé. Or, dans le vide, rien de tout cela n'est possible, car le vide n'est pas un corps. Mais il semble que ce même intervalle, qui tout à l'heure était dans le vide, doit pénétrer le cube dans cette même dimension, comme si l'eau et l'air, au lieu de céder la place à ce cube de bois, le pénétraient l'un et l'autre de part en part. Paragraphe 3. Cependant, le cube a tout autant d'étendue qu'en occupe le vide, et ce corps a beau être chaud ou froid, pesant ou léger, il n'en est pas moins différent par essence de toutes les affections qu'il subit, bien que d'ailleurs il n'en soit pas séparable. J'entends la masse du cube que je suppose être de bois. Par conséquent, en admettant même qu'il soit séparé de toutes ses autres qualités et qu'il ne soit ni lourd ni léger, il occupera une égale quantité de vide et il sera dans la partie de l'espace ou la partie du vide qui lui est égale. Alors, en quoi donc le corps de ce cube différera-t-il d'un espace égal ou d'un vide égal à lui? Et, s'il en est ainsi pour tous deux, pourquoi des corps en un nombre quelconque ne seraient-ils pas aussi dans un seul et même lieu? Voilà une première absurdité et une première impossibilité. Paragraphe 4. Mais en outre, il est clair que ce cube, tout en se déplaçant, conservera les propriétés qu'ont tous les autres corps, c'est-à-dire les trois dimensions. Si donc il ne diffère point de l'espace qui le contient, à quoi sert alors d'imaginer, pour les corps, un espace séparé de l'étendue de chacun d'eux, si cette étendue reste immuable? Car il n'est que faire d'un autre intervalle qui entoure le corps en étant égal à lui et tel que lui. Paragraphe 5. On doit voir, d'après ce qui précède, que le vide n'est pas séparé des choses. Chapitre 13. Sommaire. Le vide n'est pas plus dans les corps qu'il n'en est séparé. Le dense et le rare ne supposent pas le vide. Observations diverses de phénomènes naturels. Preuve qu'on en peut tirer contre l'existence du vide tel qu'on le conçoit ordinairement. Fin de la théorie du vide. Paragraphe 1. Il y a des philosophes qui ont soutenu que la densité et la raréfaction des corps prouvent évidemment qu'il y a du vide. Selon eux, sans la densité et la raréfaction, il n'est pas possible que les corps se resserrent et se compriment. Et sans cette faculté, ou le mouvement ne peut plus du tout avoir lieu, ou l'univers est condamné à une fluctuation perpétuelle, comme le disait Xutus, où l'air et l'eau se changent toujours en même quantité l'une dans l'autre. Et je veux dire par là que si l'air vient d'une simple coupe d'eau, cette même quantité d'eau devrait toujours venir d'une quantité d'air égale. Ou bien, le vide existe de toute nécessité, parce qu'autrement il ne serait pas possible que les corps puissent se condenser et se dilater. Paragraphe 2. Nous répondons que si l'on tend par rare ce qui a beaucoup de vide séparé les uns des autres, il est clair que si le vide, ne pouvant pas être séparé des choses pas plus que de l'espace, ne peut avoir une étendue spéciale à lui, le rare ne peut pas davantage exister de cette façon. Paragraphe 3. Mais si l'on dit que le vide, sans être séparé, n'en est pas moins dans leur intérieur, cette hypothèse est moins inacceptable. Mais en voici les conséquences. D'abord, le vide n'est plus la cause de toute espèce de mouvement, mais seulement la cause du mouvement qui se dirige en haut, puisqu'un corps qui est rare est léger. Et c'est ainsi que ces philosophes disent que le feu est léger. Paragraphe 4. Secondement, le vide ne sera pas cause du mouvement, en ce sens qu'il est le lieu où le mouvement se passe. Mais, de même que les outres gonflées d'air en s'élevant elles-mêmes en haut y élèvent aussi ce qui tient à elles, de même, le vide aura la propriété de se porter en haut. Mais pourtant, comment est-il possible que le vide ait une direction ou que le vide ait un lieu? Car alors, il y a pour le vide un vide où il peut se diriger. Autre objection. Comment les partisans de cette hypothèse pourront-ils expliquer que le poids se porte en bas? Paragraphe 6. Il est évident que si le corps monte d'autant plus vivement en haut qu'il est plus rare et plus vide, il y montera le plus vite possible s'il est absolument vide. Mais peut-être est-il impossible que le vide puisse jamais avoir de mouvement, car le même raisonnement, qui prouvait que tout doit être immobile dans le vide, prouve encore que le vide lui-même est immobile aussi. Et les vitesses y sont incommensurables. Paragraphe 7. D'ailleurs, tout en niant l'existence du vide, nous n'en reconnaissons pas moins la vérité des autres explications, à savoir que si l'on n'admet pas la condensation et la raréfaction des corps, le mouvement n'est plus concevable, ou bien que le ciel est dans une perpétuelle oscillation, ou bien encore que toujours une même quantité d'eau viendra d'une même quantité d'air, ou réciproquement l'air de l'eau, quoiqu'il soit évident que de l'eau, il vient d'une plus grande masse d'air. Donc, s'il n'y a pas compression dans les corps, il faut nécessairement, ou que le continu, poussé de proche en proche, communique la fluctuation jusqu'à l'extrémité, ou bien qu'une égale quantité d'air se change quelque part ailleurs en eau pour que le volume total de l'univers entier reste toujours égal. Ou enfin, il faudra que rien ne puisse être en mouvement. Paragraphe 8. En effet, la compression aura toujours lieu quand un corps se déplace, à moins qu'il ne tourne toujours en cercle. Mais le déplacement des corps n'est pas toujours circulaire, et c'est aussi en ligne droite qu'il a lieu. Paragraphe 9. Tels sont à peu près les motifs qui ont déterminé certains philosophes à reconnaître l'existence du vide. Paragraphe 10. Quant à nous, nous disons, d'après les principes posés par nous, que la matière des contraires est une seule et même matière, par exemple du chaud et du froid, et de tous les autres contraires naturels, que de ce qui est en puissance vient ce qui est en acte, que la matière n'est pas séparée des qualités, bien que son être soit différent, et enfin que numériquement elle est une, par exemple, si l'on veut, pour la couleur, pour le chaud, le froid, etc. Paragraphe 11. La matière d'un corps reste également la même, que le corps soit grand ou petit. Et la preuve évidente, c'est que quand l'eau se change en air, c'est bien la même matière qui est changée sans avoir reçu rien d'étranger. Et c'est seulement que ce qui était en puissance est arrivé à l'acte, à la réalité. Il en est tout à fait de même quand c'est l'air, au contraire, qui se change en nous. Et tantôt c'est la petitesse qui passe à la grandeur, et tantôt c'est la grandeur qui passe à la petitesse. Donc, c'est le même phénomène encore quand l'air en grande masse se réduit à un moindre volume, ou lorsque de plus petit qu'il était, il devient plus grand. La matière qui est en puissance devient également l'un et l'autre. Paragraphe 12. Car, de même que quand de froid le corps devient chaud, et que de chaud il devient froid, la matière reste identique parce qu'elle était en puissance. De même aussi, le corps déjà chaud devient plus chaud, sans que rien dans la matière devienne chaud qui ne fût pas chaud auparavant, alors que le corps avait moins de chaleur. De même encore que, quand la circonférence et la convexité d'un cercle plus grand devient la circonférence d'un cercle plus petit, que ce soit d'ailleurs la même circonférence ou une circonférence différente, aucune partie n'acquiert de convexité qui auparavant aurait été non pas convexe mais droite, puisqu'entre le plus et le moins, il n'y a pas d'interruption, pas plus que dans la flamme, il ne serait possible de trouver une portion qui n'eut ni blancheur ni chaleur. De même, c'est un rapport tout à fait pareil qui unit la chaleur initiale à la chaleur qui la suit. Par conséquent aussi, la grandeur et la petitesse d'un volume perceptible à nos sens se développent, non parce que la matière reçoit quelque chose d'étranger, mais seulement parce que la matière est en puissance, susceptible des deux également. Ainsi, enfin, c'est le même corps qui est successivement rare et dense, et la matière est identique pour ces deux propriétés. Paragraphe 13. Mais le dense est lourd, et le rare est léger, car ces deux propriétés appartiennent à l'un et à l'autre, c'est-à-dire au dense et au rare. Le lourd et le dur font l'effet d'être dense. Les contraires, je veux dire le léger et le mou, font l'effet d'être rare, quoique le lourd et le dur ne se correspondent plus également dans le plomb et le fer. Paragraphe 14. De tout ce qui précède, il résulte que le vide n'est point séparé, qu'il n'existe point absolument, qu'il n'est pas dans ce qui est rare et qu'il n'est pas non plus en puissance, à moins qu'on ne veuille à toute force appeler vide la cause de la chute des corps. Ce serait alors la matière du léger et du lourd en tant que telle qui serait le vide. Car le dense et le rare, opposés comme ils le sont à ce point de vue, produisent la chute des graves. En tant que durs et mous, ils sont cause de la passivité ou de l'impassibilité des corps, mais ils ne sont pas cause de leur chute, et ils le seraient plutôt de leur altération. Paragraphe 15. Ici finit ce que nous avions à dire sur le vide pour expliquer comment il est et comment il n'est pas. Chapitre 14. Théorie du temps. Raisons générales et extérieures qui peuvent faire douter de l'existence du temps. Défaillance perpétuelle du temps. Ces parties ont été ou seront, elles ne sont jamais. Idée qu'on doit se faire du présent. Difficulté de le comprendre. De la succession des instants. Conclusion de ces considérations préliminaires. Paragraphe 1. À la suite de tout ce qui vient d'être dit, il convient d'étudier le temps. En premier lieu, il sera bon de présenter les doutes que cette question soulève et de la traiter, même par des arguments extérieurs et vulgaires, pour savoir si le temps doit être rangé parmi les choses qui sont ou celles qui ne sont pas. Puis ensuite, nous rechercherons quelle en est la nature. Paragraphe 2. Voici quelques raisons qu'on pourrait alléguer pour prouver que le temps n'existe pas du tout, ou que s'il existe, c'est d'une façon à peine sensible et très obscure. Ainsi, l'une des deux parties du temps a été et n'est plus. L'autre partie doit être et n'est pas encore. C'est pourtant de ces éléments que se compose et le temps infini et le temps qu'on doit compter dans une succession perpétuelle. Or, ce qui est composé d'éléments qui ne sont pas semble ne jamais pouvoir être regardé comme possédant une existence véritable. Paragraphe 3. Ajoutez que pour tout objet divisible, il faut de toute nécessité, puisqu'il est divisible, que quand cet objet existe, quelques-unes de ses parties ou même toutes ses parties existent aussi. Or, pour le temps, bien qu'il soit divisible, certaines parties ont été, d'autres seront, mais aucune n'est réellement. Paragraphe 4. Le présent n'est pas une partie du temps, car d'un côté, la partie d'une chose sert à mesurer cette chose, et d'un autre côté, le tout doit se composer de la réunion des parties. Or, il ne paraît pas que le temps se compose de présent, d'instant. Paragraphe 5. De plus, cet instant, ce présent lui-même qui sépare et limite, à ce qu'il semble, le passé et le futur, est-il un ? Reste-t-il toujours identique et immuable ? Ou bien est-il différent et sans cesse différent ? Toute question qu'il n'est pas facile de résoudre. Paragraphe 6. En effet, si l'instant est perpétuellement autre et toujours autre, s'il ne peut pas y avoir dans le temps une seule de ses parties différentes qui coexistent avec une autre, sans d'ailleurs l'envelopper, tandis que l'autre est enveloppée par elle, comme un temps plus court est enveloppé dans un plus long. Et si enfin, l'instant qui n'est pas à présent, mais qui a précédemment été, doit nécessairement avoir péri à un moment donné, alors que les instants successifs ne pourront jamais exister simultanément les uns avec les autres, puisque l'antérieur aura dû toujours nécessairement périr. Or, il n'est pas possible que l'instant ait péri en lui-même, puisqu'il existait alors, et il n'est pas possible davantage que l'instant antérieur ait péri dans un autre instant. Par conséquent, il faut admettre qu'il est impossible que les instants tiennent les uns aux autres, comme il est impossible que le point tienne au point. Si donc l'instant ne peut pas avoir été détruit dans celui qui l'a suivi, et s'il l'a été dans un autre, alors il aura pu, durant les instants intermédiaires qui sont en nombre infini, coexister avec eux. Or, c'est là une impossibilité. Paragraphe 7. mais il n'est pas non plus possible que ce soit éternellement le même temps qui demeure et subsiste, car dans les divisibles, il n'est pas de chose finie qui n'ait qu'une seule limite, soit qu'elle n'ait de continuité qu'en un seul sens, soit qu'elle en ait en plusieurs sens. Mais l'instant est une limite, et il est facile de prendre un temps qui soit limité. Paragraphe 8. Enfin, si coexister chronologiquement, et n'être ni antérieur ni postérieur, c'est être dans le même temps, et par conséquent dans le même instant. Et si les faits antérieurs et les faits postérieurs coexistent dans l'instant présent, alors il faut admettre que ce qui s'est passé il y a 10 000 ans est contemporain de ce qui se passe aujourd'hui, et il n'y a plus rien qui soit antérieur et postérieur à quoi que ce soit. Paragraphe 9. Tels sont à peu près les doutes que peuvent faire naître l'existence et les propriétés du temps.